BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Midi, bienvenue dans 60 minutes business sur BFM Business. Bah, nous sommes là à Vivatech, porte de Versailles à Paris. Le grand retour de Vivatech en présentiel dans une ambiance absolument incroyable. Beaucoup de start-up, beaucoup de grands groupes sont autour de nous. On va recevoir quelques-uns de ces grands groupes ici présents au grand rendez-vous de l'innovation. Le patron de Miracle, l'une des premières licornes françaises, sera avec nous dans un instant. Le patron de Google Cloud en France, qui a aussi de gros projets dans les prochains mois. Et puis le patron de Manpower viendra nous voir parce que oui, aussi dans le secteur du marché du travail, on s'approprie tous les outils de l'innovation pour préparer le monde du travail de demain. Et puis Laurent Goumont sera avec nous, bien sûr, midi et demi à 13h pour recruter ici en direct. Voilà le programme de 60 minutes business depuis Vivatech. Ça sera dans un instant après qu'on ait fait un tour sur les grands titres de l'actualité avec Thomas Schnell. Bonjour mon cher Thomas.
Bonjour Guillaume.
Votre programme avec Hello Work. Région Job devient Hello Work. Plus de 4000 recrutements chaque jour en France grâce au site et application Hello Work.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Midi 1 sur BFM Business et les places européennes rebondissent à la mi-journée alors que le branle-bas de combat a été sonné à la Banque Centrale Européenne. Réunion en urgence de la BCE pour discuter du mouvement de vente massive des obligations d'État européens alors que le 10 ans a franchi des sommets, notamment la barre des 4% dépassée en Italie pour la première fois depuis 2014, ravivant les craintes d'une fragmentation de la zone euro, d'une nouvelle crise des dettes souveraines. À Paris, l'indice vedette rebondit. On verra ça avec Antoine Larrigaudry. Le CAC espère une annonce dans l'attente de la décision de la Fed ce soir qui prépare une hausse d'ampleur de ses taux d'intérêt entre 50 et 75 points, ce qui serait inédit depuis 1994 pour lutter contre l'inflation. En France, l'inflation est confirmée pour le mois de mai, plus 5,2% sur un an. Et les prix poursuivent leur augmentation selon l'INSEE. L'énergie, plus 27%, l'alimentation, plus 4,3%. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en mai après une hausse de 0,4% en avril. Quand l'Ukraine aura gagné, quand le feu aura cessé, nous devrons renégocier avec la Russie, déclare Emmanuel Macron, sur une base de l'OTAN auprès des soldats français en Roumanie. Nous devons continuer de sanctionner de manière claire la Russie, déclare le chef de l'État. De son côté, Moscou assure ce matin avoir détruit un dépôt d'armes livré par l'OTAN dans l'ouest de l'Ukraine. Après avoir réduit ses livraisons vers l'Allemagne, Gazprom limite ce matin son approvisionnement à l'italien Eni de 15% pour cette journée. L'Organisation mondiale du commerce va prolonger sa conférence ministérielle réunie à Genève. Les 164 pays membres négocient dur depuis dimanche dernier, notamment autour des accords de pêche et de la levée des sanctions européennes et des brevets, notamment sur le vaccin. Le soulagement en Suisse après la clôture de son espace aérien. Le trafic reprend peu à peu depuis 8h30. Le contrôleur aérien suisse regrette l'incident informatique qui a bloqué l'activité dans les aéroports et empêché tout survol du pays. Air Liquide lance une co-entreprise avec le groupe ADP Aéroports de Paris pour développer l'hydrogène sur les aéroports afin notamment d'alimenter les avions de ligne à horizon 2035, mais aussi les engins d'assistance en piste. Dans l'hydrogène toujours, Life a signé un protocole d'accord avec les chantiers de l'Atlantique pour développer des plateformes de production d'hydrogène en mer au large de Saint-Nazaire. Le produit de cette collaboration permettra aux deux entreprises d'inaugurer en septembre, normalement, un démonstrateur de production d'hydrogène renouvelable offshore, le premier au monde. Midi 3, la Bourse de Paris. On rejoint Antoine Larrigaudry. Antoine, la BCE sauve un peu la séance à la mi-journée.
Oui, c'est une vraie journée de banque centrale, un petit peu d'une ampleur un petit peu imprévue. Hein. Effectivement, cette rencontre au sommet à la BCE n'était pas prévue au calendrier, mais elle est bien obligée de s'occuper de tout ce qui se passe sur le marché obligataire et des tensions persistantes autour des dettes européennes. Cette prise de conscience fait quand même bien redécoller les indices qui en avaient besoin, notamment le CAC 40 qui sort de 6 séances de baisse consécutives. Cette fois, on arrive à sécuriser un rebond et même de grimper au-delà des 6000 points. On est à 6007 points. hausse de 0,96%, hausse même un peu plus franche du côté de l'Eurostock 50 qui prend 1,07 et du DAX à Francfort à 1,08. Un point sur les dettes 10 ans, justement, ça s'est détendu. Hein, 2,3% pour la dette française, 1,7% pour la dette allemande et du côté de la dette italienne, on est à 3,91. Du côté des valeurs qui profitent le plus de ce rebond, ben, tout le compartiment bancaire qui était sous pression justement du fait de ces considérations autour de l'obligataire. AXA gagne 3,4% à 23,15€, Crédit Agricole plus 3 à 9,10€, Société Générale plus 2,86€, on est à 23,06€, mais à noter la très belle performance de Renault plus 3% à 24,99€, ou encore de Capgemini qui prend 3% à 170,70€. À la baisse, on retrouve Danone qui perd 1,2% à 51,12€, Total Énergie moins 0,67 à 53,72€. À noter que le pétrole est redescendu sous les 120$, le Brent de mer du Nord est à 119,85, ce qui allège aussi un petit peu la pression. Le CAC donc plus 0,98%, on est à 6007 points. Du côté de l'euro-dollar, on a un tout petit peu forci à 1,0488. Et à noter une nouvelle forte pression sur le Bitcoin qui est passé légèrement sous les 20 000$ tout à l'heure. On est à 20 200 en ce moment.
Merci Antoine Larrigaudry, midi 5 sur BFM Business, direction le salon Viva Technologie. On vous retrouve Guillaume Paul et toute l'équipe de 60 Minutes Business.
Merci mon cher Thomas. On vous retrouve à midi et demi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Bah oui, ici à Viva Tech, dans une ambiance absolument indescriptible. Je vous le disais, il y a un monde, mais c'est incroyable. Hein. 2000 entreprises qui ont un stand ici, 2000 exposants, dont 1700 startups, des politiques. On a vu Bruno Le Maire tout à l'heure qui est passé faire un discours, qui est passé par notre stand, nous faire un petit bonjour. Et nous, on va continuer à s'exprimer, à parler avec les acteurs qui font l'actualité ici. Je vous présente nos deux premiers intervenants. On est ravis de les accueillir. Anthony Sirot qui est avec nous. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Directeur général de Google Cloud pour la France. Et puis, pas une licorne française quand même. Adrien Nussenbaum est avec nous. Bonjour Adrien, bienvenue. Cofondateur de Miracle. Vous avez été quoi, une des premières licornes françaises, si on regarde rétrospectivement? Dans le micro.
Oui, effectivement, on a eu la chance de rentrer dans ce cercle qui est de moins en moins fermé pour le bien de la French Tech.
Ouais. Y a une 27e licorne qui a vu le jour. Hier, on a parlé Ecovadis. Comment est-ce que vous le regardez, cet écosystème de la French Tech? Est-ce que vous le trouvez plus serein, plus armé aujourd'hui à répondre aux défis de demain, fondamentalement?
Absolument. Je pense qu'on a aujourd'hui une vague d'entrepreneurs qui n'ont peur de rien,
ouais,
qui ont les financements nécessaires pour faire grandir leur entreprise et qui aussi déploient des business models qui sont ancré dans des réalités économiques. Donc je pense, ouais, que tous les ingrédients sont réunis pour que ça continue à se développer et à croître.
Bon. Votre business model à vous, il est rodé, il évolue quand même, hein. On va en parler. Alors on rappelle évidemment Miracle qui propose une solution clé en main pour déployer rapidement une marketplace valorisée à combien aujourd'hui? 3,5, 4 milliards
En septembre 2021.
En septembre, vous étiez à 3,5 milliards.
3,5 ouais, milliards de dollars. Ouais.
C'est votre cofondateur qui était passé nous voir sur BFM Business il y a quelques temps. En le terme de licorne, moi, on n'est pas très à l'aise avec ce terme. La licorne, c'est un animal qui n'existe pas finalement. Nous, on est bien dans... C'est un peu votre point de vue aussi finalement aujourd'hui.
Nous, on est assez ancré dans la réalité, notamment celle de nos clients, à qui on permet finalement d'inventer leur business model de demain pour réagir face à la concurrence qui arrive d'un certain, ouais, nombre d'acteurs plus digitaux. Et donc aujourd'hui, il y a un terme de centaure qui, oui, est pour les entreprises.
Vous êtes plus à l'aise, ça n'existe pas non plus le centaure, vous êtes plus à l'aise.
Alors, on est plus à l'aise avec le centaure parce qu'il est ancré dans une réalité économique qui, ouais, est la génération de chiffre d'affaires et donc, oui, la création de valeur.
Oui.
Et donc plus de 100 millions de...
En ce qui vous concerne, de revenus nets récurrents, voilà, c'est ça aujourd'hui. Parce que c'est ça qu'on demande. Au-delà de la valo, maintenant, on s'intéresse au chiffre d'affaires véritablement que les licornes sont capables de déployer. Quoi, véritablement,
oui,
quoi.
C'est le reflet de la créativité, c'est le reflet, ouais, de la qualité des équipes, c'est, ouais, le reflet de la qualité du produit. Et puis le plus important, c'est le reflet de ce que nos clients arrivent à développer comme création de valeur avec ça, la solution.
Plus de 300 clients dans 40 pays, c'est ça aujourd'hui, hein, Miracle.
Ouais, donc, c'est plus de 300 clients dans, ouais, une quarantaine de pays, ouais, qui vont de grands commerçants qu'on connaît, ouais, tous comme Leroy Merlin, Decathlon, ouais, mais aussi des entreprises de services comme Accor, ouais, et même des entreprises dans l'industrie comme Airbus, c'est ou CMH et GM dans le transport.
Ne serait-ce qu'en France, 70% du top 30 des détaillants en ligne aujourd'hui. C'est, ouais, Miracle aujourd'hui.
Je pense que c'est plus maintenant, mais ouais,
ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, je voudrais qu'on dise un petit mot de ça, c'est que votre business model, évidemment, il est rodé, mais il évolue parce que à coût d'acquisition, je voudrais que vous nous expliquiez ça, à coût d'acquisition depuis, je sais pas, 12-18 mois, vous ajoutez de nouvelles briques technologiques pour offrir toujours plus de services, toujours plus d'agilité à vos clients. C'est quoi l'idée fondamentalement,
la vraie logique, si vous voulez, c'est derrière Miracle, il y a la volonté de dire à des entreprises qu'il faut transformer leur business model, que la marketplace est l'agent principal de la transformation de ce business model, parce qu'elle leur permet de croître, d'accéder à des nouveaux marchés, de proposer plus de services, plus de produits, de manière très rentable. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, chez Miracle, on a constitué le plus grand écosystème mondial de marketplace d'un côté et de l'autre côté de vendeurs qui vont sur ces marketplaces pour développer leur activité.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, grâce à ces acquisitions, on amène des services supplémentaires qui viennent résoudre des enjeux et apporter des opportunités dans le paiement pour payer les vendeurs.
Vous avez créé votre solution de paiement.
On a lancé un module qui s'appelle Payout, qui est spécifiquement lié pour payer les marchands, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, dans quel pays, dans quelle devise, etc. On a aussi racheté une société qui s'appelle Target To Sell, qui vient amener de la personnalisation à la grande échelle. Donc si vous faites une marketplace, vous pouvez avoir, je sais pas, au départ 50 000 produits, et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 500 000 produits. Bah, ces produits, il faut qu'ils soient bien mis en avant, qu'ils soient vus, et c'est aussi ce que nous apporte ce genre d'acquisition. Donc soit on le développe nous-mêmes, soit quand on pense que ça peut aller plus vite, on acquiert des compagnies.
Et tout ça, ça apporte des revenus récurrents, ce qui est évidemment le nerf de la guerre. Je disais, on demande aux licornes pas seulement d'être bien valorisées, on leur demande de délivrer du chiffre d'affaires, on leur demande aussi d'être plus en phase avec l'époque sur les préoccupations RSE. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous intégrez de plus en plus, et de quelle manière finalement chez vous, chez Miracle?
En fait, on l'intègre bien entendu.
Ouais.
Alors c'est un process. Donc on a une initiative qui s'appelle Miracle Goes Green, avec laquelle, bien entendu, on efface toute notre empreinte carbone. Mais on a aussi vis-à-vis de nos clients. Et c'est ça qui est le plus important, parce qu'on aide des clients, par exemple Pour de Bon, qui est une place de marché qui permet à des producteurs locaux de vendre leurs produits, ou aux États-Unis avec des gens comme Madewell, par exemple, qui est une enseigne dans la mode, qui permet à des enseignes et à des marques qui ont été créées par des minorités de pouvoir être visibles et de développer leur chiffre d'affaires. Et en fait, on est le vecteur de cette inclusivité. Je ne sais pas si ça se dit en français. J'ai passé 7 ans aux États-Unis, donc désolé.
Vous êtes pardonné sur ce coup-là.
Voilà, donc c'est un certain nombre de façons dont on le met en œuvre.
Bon, la bourse, c'est la question qu'on vous pose à chaque fois, j'imagine, non? On y réfléchit, c'est ce que vous dites à chaque fois. Voilà, donc on y réfléchit, quoi. Voilà,
non, on a une position qui est assez à l'aise vis-à-vis de ça. Ouais. C'est qu'on a pour ambition, finalement, de se dire, il y a eu une belle société européenne qui s'appelait SAP, qui a créé un outil qui a équipé l'économie d'hier. Nous, on crée l'outil qui va équiper l'économie de demain. Donc forcément, si on veut avoir le même succès, un jour on ira en bourse et ça fera partie du développement de l'entreprise.
Vous l'avez en tête et vous y réfléchissez. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on vient chercher chez Vivatech quand on est on vient se montrer, ou on vient chercher quand on est Miracle aujourd'hui en bourse?
On vient rencontrer, on vient partager avec mon voisin. Et on vient surtout, je trouve, la première réflexion, c'est voir à quel point c'est rempli et dynamique, et je pense que c'est quelque chose dont on peut tous se réjouir.
Et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous restez avec nous, Adrien, évidemment, on va accueillir justement votre voisin, Anthony Siro, directeur général de Google Cloud pour la France. Même question, pourquoi on vient à Vivatech quand on est Google? On vient se montrer, on vient chercher, fondamentalement, Anthony?
Déjà, Google est un partenaire historique de Vivatech, donc on a un stand qui est un village. Cette année, donc, c'est un lieu d'échange.
Oui.
C'est un lieu de découverte, d'échange. Et c'est un lieu aussi où on va montrer l'innovation, les nouvelles technologies. Et surtout, on va venir montrer les sociétés françaises qui utilisent nos technologies. Donc, il y a un certain nombre de start-up qui sont présentes sur notre stand, comme l'UMAPS, par exemple, dans les environnements collaboratifs d'entreprises.
Oui.
Et aussi des entreprises plus historiques et leaders de la tech, comme Fnac Darty ou Renault aussi, puisqu'on a la nouvelle Mégane. On a la chance d'avoir la nouvelle Mégane, qui a un infotainment de Google qui est présente sur le stand.
Ouais. Je vais pas vous demander. Alors je vais vous épargner les questions que j'ai posées à Adrien à l'instant. Voilà. Est-ce que Google est une licorne? Est-ce que vous êtes valorisé plus de 3,5 milliards de dollars? Ça serait un peu mal poli. Non. Pour en venir à votre actualité à vous, Google Cloud en France, puisque c'est dans 15 jours, je crois, à la fin du mois, que Google Cloud va inaugurer en France ce qu'on appelle sa région à part entière. C'est quoi une région dans l'écosystème Google, Anthony?
Alors, qu'est-ce qu'une région? Effectivement, on va ouvrir la région France.
Ouais.
Donc, elle est disponible techniquement depuis 15 jours, 3 semaines. Donc, un certain nombre de clients sont en train de tester techniquement le produit. Donc, on va faire le lancement commercial le 30 juin. Donc, c'est une grande fête pour la France. C'est un investissement significatif.
De combien
de Google. on ne donne pas ces chiffres-là, vous le savez. Néanmoins, c'est significatif pour le marché français. Et surtout, qu'est-ce que c'est? Finalement, ce sont trois data centers répartis qui vont permettre en temps réel donc de répliquer les données. Donc, c'est une zone qui est entièrement résiliente où les clients entreprises français vont pouvoir poser leur charge de travail.
Ouais.
Pas seulement, ils vont faire du stockage, des machines virtuelles, développer les applications et surtout avoir toutes les briques pour gérer les données et jusqu'à l'intelligence artificielle.
Ça, c'est pour la fin du mois. Alors, où seront localisés ces data centers? Ça, on ne le dit pas aussi, secret d'État. Vous arrivez en France donc avec cette région en Île-de-France, c'est la 34e je crois où...
Exactement.
Il y en a une qui a été inaugurée en Texas, enfin, l'écosystème continue de s'étendre petit à petit, l'écosystème Google Cloud.
Oui, tout à fait, ouais. Je pense qu'on a, encore une fois, toutes les zones sont interconnectées.
Oui.
Donc il faut savoir qu'aujourd'hui un client a des opérations, ben, comme Miracle a des opérations aux États-Unis aussi,
ouais.
Donc les clients finalement localisent la charge de travail le plus près possible des clients. Ouais. Pour des questions de temps de réponse notamment,
ouais.
Ou légales aussi, de localisation des données. Donc on investit fortement. Les clients pouvaient déjà bénéficier de Google Cloud, notamment la plupart des clients français utilisaient la Belgique,
ouais.
Ou l'Allemagne jusqu'à maintenant. Là, on va amener une meilleure latence, ouais. Avec cette proximité finalement pour les clients. Mais on ouvre quasiment en simultané,
ouais.
La France, l'Espagne et l'Italie.
Ouais.
On voit que c'est massif comme investissement en Europe.
Alors Google arrive, un mot, parce qu'il faut bien en parler, Microsoft et Amazon, vos concurrents, sont arrivés fin 2017 ou 2018, début 2018 en France, vous êtes en retard. Pourquoi ce retard de la part de Google aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu attendre un petit peu plus de temps finalement?
Alors en fait, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est la vitesse à laquelle on se déploie aujourd'hui sur ce marché. On est réellement le cloud qui se déploie le plus vite,
ouais.
Qui a la chance de disposer, grâce à nos clients, des plus forts taux d'adoption et donc de croissance sur le marché. Ça, c'est une chose. Ensuite, comme je vous l'ai indiqué, on était déjà présent, c'est-à-dire que les clients,
oui.
Pour un client français, se connecter à la Belgique, c'était quelque chose de très facile, qui avait très peu d'impact sur les performances.
Oui, oui,
et donc,
oui.
On continue comme ça d'investir et de croître, hein, à, oui. À une vitesse qui devrait nous permettre de nous rapprocher de la compétition.
Parce que vous êtes challenger. Alors, je voyais, il y a des chiffres qui sont sortis encore hier de la part de Marques by Exegis. Part de marché en France, Amazon 46%, Azure de Microsoft 17%, Google Cloud 8%. Vous êtes le challenger finalement. Mais vous nous dites, on a les moyens, on est armé pour rattraper une partie de notre retard à terme sur nos 2%.
Oui, bien sûr, il suffit de regarder les chiffres. Si vous regardez, il y a 3 ans, Google Cloud dans le monde, c'était à peu près 5 milliards de chiffre, ouais. D'affaires annuel. L'an dernier, c'était déjà 20 milliards.
Ouais.
Donc déjà, on voit qu'au niveau des inducteurs de charge,
ouais.
C'est assez parlant.
Et sur quoi va se faire la différence, Anthony, dans les prochaines années pour rattraper une partie de ce retard pour vous?
Notre c'est position, quoi, c'est encore une fois, on pense qu'il y a de la place sur le marché français.
Il y a de la place.
Il y a de la place. C'est un marché qui est très dynamique. Et on bénéficie d'ailleurs de cette dynamique sur le marché. Et au-delà des data centers, on investit aussi dans les gens.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens, donc on a une présence commerciale qui a été multipliée par 3 aussi en 3 ans, et aussi une présence de consulting, une présence technique. Mmh. Donc c'est un ensemble, c'est pas juste des data centers.
Ouais. Ces data centers, un mot, et puis on parlera du reste de l'actualité. Est-ce qu'ils émettent beaucoup de CO2? Vous savez que Bruxelles regarde ça de très très près aujourd'hui. On demande aux data centers la neutralité carbone à horizon 2030. Est-ce que vous dites là-dessus, on sera...
Alors,
c'est un gros sujet du moment. Hein, vous
savez. C'est un gros sujet. Ouais. Donc on est très préoccupé par ce sujet, au sens où depuis 2017, l'ensemble de nos opérations sont totalement neutralisées,
ouais.
Okay, énergie renouvelable. Et l'engagement qui est pris par Google, c'est d'être carbone free,
ouais.
100% en 2030. Ouais. Et évidemment, les data centers français vont bénéficier de cet engagement.
Ouais. Deux questions pour terminer. On a 3-4 minutes. On aurait beaucoup de questions, mais on doit aller très très vite. Vous dites, on est là, évidemment, Google Cloud, comme le concurrent d'ailleurs, pour accompagner nos clients face à une réglementation plus sévère. On a beaucoup parlé de RGPD qui vient de fêter son premier anniversaire, le DMA, le DSA. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients justement pour passer entre les accueils, surmonter ces réglementations de plus en plus féroces? Alors, finalement
Effectivement, d'abord, nous sommes conformes RGPD,
ouais.
Donc nous prenons en compte les réglementations des pays. Je pense que s'il y a bien un acteur qui suit ce qui se passe dans le pays, c'est Google Cloud. Et on va de plus en plus loin. Vous avez vu qu'on a annoncé une co-entreprise avec Thales,
oui.
Pour créer ensemble un cloud de confiance,
oui.
Qui sera conforme à la réglementation Secnum Cloud, donc avec l'ANSSI, avec la DGE. C'est quelque chose qu'on a annoncé il y a 6 mois et qui avance très très bien.
C'est une société alors qui devait voir le jour au début de l'année. Majoritairement, c'est une co-entreprise, c'est ça, avec Thales.
C'est une co-entreprise avec Thales, ouais. Donc là-dessus...
Dans laquelle Thales est majoritaire, je crois.
On parlait du 30 juin pour le, ouais. Lancement de la zone France.
Ouais, ouais.
J'ai resté très à l'écoute. Ouais. On va annoncer quelque chose très précis sur ce sujet le 30 juin.
Ah,
voilà.
Bah, vous allez nous en parler, Anthony, évidemment, le 30
avec
juin
plaisir.
Prochain. Il nous reste une grosse minute. Alors, VivaTech, on disait vraiment, vous m'avez décrit un environnement. Vous êtes surpris, je posais la question à Adrien tout à l'heure, vous êtes surpris par l'engouement ici, le retour en force
Vous le disiez en introduction, mais c'est vrai que l'énergie ici est juste incroyable.
Oui.
Notamment alors par rapport à l'an dernier, qui était un petit moment de reprise, oui, qui était un peu plus délicat.
Oui.
Là, on a l'impression d'être revenu au monde d'avant, mais
c'est vrai.
Puissance 10, quasiment.
Oui. Adrien, même question pour terminer avec vous. On parlait, vous me disiez, effectivement, l'environnement de la French Tech est solide. Beaucoup plus solide face au vent contraire. En ce moment, on le voit sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan boursier notamment. Qu'est-ce qui manque à la French Tech pour aller franchir encore l'étape d'après? On a beaucoup parlé des plafonds sur les levées de fonds, ça, apparemment on a évolué là-dessus. Qu'est-ce qui manque encore pour vous pour accélérer? Non,
je pense que le grand enjeu pour nous, c'est d'avoir accès à un marché beaucoup plus large, beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement.
Ouais.
Et on a la chance de faire partie de l'Union européenne. Et je pense que pour des entreprises, notamment dans le secteur du B2B comme les nôtres, avoir tout de suite cet accès à un marché de 300 millions ou plus d'habitants,
oui,
ça nous mettrait complètement à égalité avec les entreprises américaines qui démarrent tout de suite sur un marché de 300 millions d'habitants.
Oui. Donc voilà. Plus raisonné au niveau européen, c'est ça finalement.
Je crois beaucoup. Oui.
Ouais. Merci beaucoup messieurs, merci de passer nous voir. On va vous libérer parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, beaucoup de, j'imagine pour vous Adrien. Les agendas sont serrés du côté de Vivatech.
Sur scène, là.
Sur scène aussi.
À 13h40.
Dans la foulée, ouais. C'est un véritable. Pour vous aussi, Anthony, j'imagine.
Oui, tout à fait. Voilà. Le stand est bien rempli.
C'est un vrai marathon ici quand on est patron ici d'une grande entreprise. Hein. Du côté de Vivatech, il y a des agendas très serrés, beaucoup de présentations sur scène. Merci beaucoup, Adrien Nussembaum, cofondateur de Miracle. Anthony Siro, directeur général de Google Cloud pour la France. Merci, messieurs. Bon show cet après-midi ici, Port de Versailles. On se retrouve dans un instant avec le patron de Manpower parce que le monde du travail aussi prépare l'après grâce à l'apport de nouvelles technologies. On va voir ça dans un instant. À tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Allez, midi 23, on est de retour ici, Port de Versailles, à Vivatech. Toujours avec beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence autour de nous. Je vous disais, il y a 2000 exposants, dont 1700 startups, mais aussi des grands groupes. On voit stand Huawei qui est pas loin de chez nous, stand de la RATP. Et puis, son stand n'est pas loin, mais lui est venu nous voir. C'est le président de Manpower pour la France, Alain Roumillac. Bonjour Alain Roumillac.
Bonjour.
Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu moins tech. Mais vous êtes, alors on parlait pendant la pub, vous êtes, si on est une licorne, on est coté à New York.
On est coté à New York, même si la France, c'est le premier marché du groupe.
Ben voilà, 7 milliards de dollars. Hein.
De capitalisation.
Donc vous êtes une licorne à votre façon, finalement. Voilà, ça c'est une bonne chose. On va parler un petit peu avec vous de la façon dont le monde du travail bascule avec notamment l'apport de ces nouvelles technologies. Vous dites, le monde du travail tel qu'on l'a connu, on le voit déjà, mais bientôt ne sera plus. Qu'est-ce que la crise a accéléré comme tendance, fondamentalement?
Alors, elle a accéléré d'abord le fait que les salariés et les candidats ont de nouvelles attentes.
Ouais.
Ils veulent être dans des entreprises qui sont plus vertueuses, ils veulent qu'on fasse plus attention à eux, ils veulent avoir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et tout ça se fait dans un contexte où il y a une grande pénurie de ressources.
Ouais.
Donc, et de talents. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de répondre à ces aspirations des collaborateurs, vous ne les attirez pas et vous ne les retirez pas. Vous ne les retenez pas, pardon.
C'est ça. C'est ça que vous faites, le basculement des expériences de travail,
voilà,
aujourd'hui.
Donc,
très clairement,
c'est le basculement et qui vient se rajouter au fait que les entreprises ont de nouveaux enjeux, les enjeux environnementaux, sociétaux, de gouvernance. Elles sont face à de plus grands risques, des risques géopolitiques, des risques cyber. Et puis tout ça se fait aussi à un moment où il y a une accélération de la digitalisation.
Ouais.
Et je pense que d'ailleurs cette digitalisation va continuer à s'accélérer puisque avec tout ce qui est en train de se passer, le renchérissement de beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises sont en train de repenser leur business model.
Ouais.
Donc oui, c'est un basculement et ce basculement est là pour durer.
Et ça, quand on est un cabinet de recrutement comme Manpower, comment est-ce qu'on gère tout ça? Ça vous oblige à repenser votre business model dans quelle proportion?
Alors,
et comment?
Ça nous oblige à repenser l'offre que nous avons vis-à-vis de nos clients.
Ouais.
Puisqu'il faut qu'on soit capable de plus les conseiller sur comment est-ce que dans ce contexte, ils doivent faire évoluer en particulier leur façon de recruter pour pouvoir attirer des talents. Voilà. Quelle est ce qu'on appelle donc la marque employeur?
C'est
qu'est-ce
ça
qu'ils proposent? Voilà, donc il faut qu'on les conseille sur ces sujets-là et il faut qu'on les accompagne dans le changement de leur process de recrutement, qu'on aille les aider aussi à aller chercher des profils différents, accepter de ne pas avoir que des gens qui sont prêts, entre guillemets, à l'emploi, qui sont opérationnel dès le premier jour, mais aller chercher des gens qui ont le potentiel, les former. Voilà tous les changements que ça génère pour nous.
Ça implique, alors, entre autres, d'appliquer l'intelligence artificielle, d'avoir recours à l'intelligence artificielle. Ce que vous faites, vous avez des labs ici.
Hein, voilà, donc justement. Nous avons un lab où nous présentons nos innovations.
Alors,
nous
expliquez-nous en quelque manière très pratique quelques innovations pratiques, la façon dont les choses vont changer chez vous.
Donc, typiquement, la façon dont nous évaluons les compétences des gens. Donc, on va utiliser des techniques de réalité virtuelle maintenant pour leur faire passer des tests plutôt que de faire des tests où ils répondent oui, non. Voilà, bah maintenant, on va les mettre dans un environnement et ils vont pouvoir se positionner.
Oui.
Il y a tout ce qui est justement aussi l'utilisation de la réalité virtuelle, mais d'autres technologies pour la formation. Demain, peut-être le métaverse. Il y a la façon dont nous utilisons des techniques de recrutement digital, donc toutes les techniques digitales pour aller chercher des candidats dont nous avons besoin. Et tout ça, nous le faisons avec un écosystème de start-up. Nous avons 36 start-up avec nous, certaines qui travaillent depuis plusieurs années donc avec nous, d'autres qui sont plus dans des phases de démarrage, mais dont nous pensons qu'elles sont prometteuses.
Vous me disiez, on espère que certaines d'entre elles deviendront des licornes.
On espère que certaines seront des licornes.
On vous le souhaite, oui.
Voilà, mais une de celles qui travaille avec nous vient de lever plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc voilà, on est dans cette démarche-là. Donc il va y avoir on voit une accélération des investissements en capital dans les startups, ce qu'on peut appeler la HR Tech. Et nous, tout notre enjeu, c'est d'aller chercher le meilleur de cette technologie pour fournir le meilleur service à nos clients.
Ouais. Mais ça ne changera rien pour le demandeur d'emploi qui poussera votre porte en agence ou sur le site. Voilà,
mais il ne pousse plus notre porte.
Il ne pousse plus vos portes déjà, c'est ça.
Il ne pousse plus nos portes.
Du tout. Il va se monter sur votre site.
Aujourd'hui, il pousse notre site web.
C'est une façon de parler.
Mais de plus en plus aussi notre application mobile.
Oui.
Donc, et tout ça, c'est une autre façon de faire, et c'est une autre façon de nouveau savoir également pour nous. Et lui, si ça changera son expérience, parce qu'il y aura sans doute, il y a moins de contacts physiques. Aujourd'hui, il y a plein de recrutements qui se font sans contact physique, en visio, en utilisant des techniques d'évaluation distancielle et ainsi de suite.
Voilà, parcours professionnel sur mesure, transformation de l'environnement de travail, évidemment aussi. Ça aussi, c'est un paramètre important aujourd'hui.
Donc, transformation de l'environnement de travail, je veux dire, de plus en plus de digital, de plus en plus de télétravail. Lorsque les gens sont sur site, c'est plus pour travailler en équipe. Donc, il faut bâtir un environnement de travail qui va être plus capable de leur permettre de faire ça.
Oui.
Et pour que les gens, aujourd'hui, c'est clair, il faut qu'ils sachent pourquoi ils reviennent au bureau.
C'est ça,
c'est pour retrouver au bureau le même environnement que chez eux, ils préfèrent rester chez eux. Donc ça amène à repenser tous ces sujets-là. Et puis quand vous travaillez à distance, il faut que vos outils digitaux soient organisés pour. Il faut que vous ayez le bon niveau de support si vous avez le moindre problème. Donc toutes ces évolutions qui sont en train d'apparaître.
Il faut que les recruteurs soient capables d'amener cet environnement jusqu'à chez nous. Ben voilà pour les défis de Manpower ici présents à VivaTech avec ses labs et ses petites startups dont vous espérez, on vous le souhaite. On vous le souhaite franchement que ce seront des futures licornes françaises. Merci beaucoup Alain Roumiac.
Merci beaucoup.
Merci de passer nous voir, le président de Manpower France avec nous sur BFM Business. Midi et demi dans quelques secondes. On marque une pause. Thomas Schnell va vous redonner les grands titres de l'actualité. Puis Lorraine Goumo arrive dans un instant. On va répondre à vos questions. Et justement, comme tous les jours, nous aussi, on va recruter en direct sur BFM Business. A tout de suite.
60 minutes business. BFM Business avec vous.
Merci mon cher Thomas, midi 34, retour effectivement ici à VivaTech avec vous, avec nous et avec Lorraine Goumo pour BFM Business avec vous. Bonjour ma chère Lorraine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes.
Il y a du monde,
Oui, oui, on s'entend à peine d'ailleurs.
C'est une vraie petite ruche. Je vous rappelle les modalités en tout cas, parce que les fondamentaux sont là évidemment, pour nous poser les questions, nous faire des offres d'embauche tous les jours en direct sur BFM Business, hashtag BFM Business avec vous sur les réseaux sociaux, avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com, et tout ça, évidemment, c'est gratuit. De quoi parle-t-on ici à VivaTech, ma chère Laurent ?
On est à VivaTech, mais on va évidemment parler droit du travail. On va répondre aux questions que vous nous avez adressées. On va faire ça avec notre avocate, c'est Lise Lebang. Bonjour Lise.
Bonjour.
Bonjour Lise, bienvenue.
Merci d'être avec nous. On a plein de sujets. On a un sujet métavers, évidemment, mais on a d'abord un sujet droit du travail et licenciement, puisque si vous suivez notre antenne, vous avez su que beaucoup de boîtes tech doivent dégraisser un petit peu, comme on dit, pour des raisons économiques. Et donc, on a plusieurs questions d'auditeurs en vrac. Lise, on va commencer par celle-ci. C'est Max qui nous a écrit. pour nous demander si en France, un patron ou une patronne de start-up qui doit licencier pour raison économique peut publier sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu aux États-Unis mais aussi en Suède, la liste des employés licenciés dans la logique ou dans la volonté de les aider à trouver un emploi. Est-ce qu'on a le droit de publier une telle liste ?
Alors, a priori, non, parce que vous avez l'obligation de reclassement, elle est définie par le Code du travail, il y a nulle obligation de la publier sur LinkedIn. Donc, si vous outrepassez le Code du travail, là, je vois deux limites. La première limite, c'est que vous pouvez atteindre le droit à la vie privée d'un salarié, parce que lui, peut-être qu'il n'a pas envie que les réseaux sociaux soient au courant de son licenciement, qu'il était en train de le gérer autrement, de candidater. Enfin, on sait très bien que quand on est licencié, on peut mettre en place une stratégie sans vouloir ouvertement dire qu'on est licencié. Et puis surtout, vous avez une problématique de données personnelles. Donc, si vous souhaitez diffuser le CV ou le nom d'une personne sur les réseaux sociaux, vous lui demandez son accord écrit.
Dans la même veine, Lise, on nous demande, concernant les licenciements, peut-on faire circuler la liste de collègues licenciés à son réseau personnel et professionnel via email ou à l'oral, carrément ?
Alors encore une fois, on revient sur l'obligation de reclassement interne de l'employeur. C'est à l'employeur de transmettre la liste des salariés licenciés à son réseau professionnel, mais à son réseau professionnel du groupe, puisque l'obligation de reclassement interne, elle se fait dans le groupe. Donc il faut qu'il envoie le profil des salariés licenciés aux représentants légaux des entités des sociétés de son groupe. Il peut le faire par courrier ou par mail, mais à l'oral, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il faut, comme c'est une obligation, qu'il se constitue la preuve qu'il l'a fait.
Oui, alors vous parlez de groupe, on pense évidemment aux startups qui ont peut-être triplé de taille en quelques mois ou en quelques années, mais qui restent des entités de 50, 60 personnes max. Ça s'applique, ce que vous nous dites ?
Non, parce que dans ce cas, il y a une seule entité, donc la recherche va se faire au sein même de l'entité, et donc il n'y a pas d'envoi à qui que ce soit d'autre à faire, sauf si la convention collective prévoit de saisir la commission paritaire de branche, mais ce n'est pas le cas dans la CCN Syntec qui s'applique aux sociétés qui sont présentes aujourd'hui, auquel cas c'est elle qu'il faut contacter.
Bon, une question un petit peu plus large, peut-être, on va peut-être, vous nous dites si on dépasse de votre compétence, Lise, parce que c'est presque managérial et plus légal ce que je vais vous demander, mais si une start-up ne décolle pas ou ne décolle plus, comment on fait pour gérer dans les grandes lignes la masse salariale et quelles sont les obligations pour revenir côté légal qui s'appliquent ?
Alors, quand on est contacté par une start-up qui a besoin de revoir son effectif, soit on est dans le cas d'une restructuration à froid, c'est-à-dire que vous n'avez pas de motif économique. Et donc vous pouvez envisager par exemple de mettre en place un accord de rupture conventionnelle collective avec une rupture d'un commun accord. Soit vous êtes dans une restructuration à chaud, c'est-à-dire que vous avez une baisse de commandes, une baisse de votre chiffre d'affaires, donc un motif économique. Et là vous pouvez mettre en place des licenciements économiques, voire un plan de sauvegarde de l'emploi en suivant les règles habituelles du licenciement économique qui s'appliquent, eh bien, que vous soyez une start-up ou une grosse entreprise, avec des règles différentes selon vos effectifs.
On va changer de thématique, on était dans le licenciement et l'emploi, on va un peu vous faire des questions en vrac sur la tech, puisqu'on est à Vivatech, si vous voulez bien, Guillaume et Lise. D'abord, cette question de Thomas, le développement des deep tech et de l'IA engendre-t-il de nouveaux risques au travail et comment peut-on les anticiper ? Deep tech et intelligence artificielle.
Alors effectivement, lorsqu'on évalue les risques dans une entreprise, quand on est dans une entreprise de l'IA et de la deep tech, vous avez des risques physiques et des risques psychiques qui sont propres à ces thématiques. On l'a vu lors du confinement, lorsqu'on est en télétravail, vous avez notamment un risque d'isolement qui est exacerbé. Et bien là, par exemple, dans les risques physiques, vous pouvez avoir le risque de les troubles musculo-squelettiques qui sont différents quand vous devez porter un casque de près d'un kilo. Vous avez aussi un risque de fatigue visuelle qui est différent. Et puis vous avez des risques psychiques qui sont différents. Ça va être par exemple le risque de surveillance exacerbée et accrue, puisque si vous travaillez via un avatar, et bien votre avatar, il reproduit vos mimiques et vos gestes, mais c'est comme si vous étiez filmé en permanence.
Oui.
Et puis vous allez avoir aussi un risque, eh bien potentiellement d'isolement, voire d'addiction au monde virtuel par rapport au monde réel.
Tout ça est déjà bien documenté aujourd'hui, Lise, véritablement, l'impact de...
Non, pas vraiment. Encore, pour l'instant, on est vraiment dans la projection et dans l'analyse des quelques entreprises du domaine.
On a un témoignage.
Oui, un témoignage. Il y a quelqu'un qui s'appelle Le Ventriloque sur LinkedIn qui nous écrit, nous dit « Les casques de télé-réalité virtuelle me filent la nausée au bout de 15 minutes, est-ce qu'on peut refuser de porter un casque ? Alors, on se remet en condition. On travaille dans un univers digital, peut-être qu'on travaille dans le métavers. Est-ce que ce refus de porter un Oculus, par exemple, c'est possible quand on est salarié et que ça fait partie de notre liste de tâches ?
En tout cas, ce qui est recommandé à l'employeur pour éviter tout recours contre lui, c'est que les salariés auxquels il souhaite faire porter un Oculus, ils fassent une visite express à la médecine du travail pour que le port de cet outil soit validé et puis qu'il en fasse régulièrement pour voir si c'est compatible sur le long terme avec la santé du salarié.
Bon, on va poser quelques questions dans le métavers, si vous voulez bien, puisque c'est un des mots-clés. À défaut que l'écologie soit à l'honneur, ici, on parle du métavers. Alors, une question un peu large pour démarrer, si vous voulez bien, Lise. Comment s'applique le code du travail dans le métavers ou dans les métavers?
On a déjà commencé à réfléchir à ça ou pas, Lise?
Oui, on commence à y réfléchir, puisque des questions se posent très pratiques. Par exemple, si vous avez un travailleur du métavers et que vous devez lui mettre une clause de non-concurrence, comment vous définissez le champ de la clause de non-concurrence? Puisque le champ géographique lambda, là, il est totalement vain. Donc, il faut définir, est-ce que c'est le métavers, est-ce que c'est tel ou tel métavers? Donc, effectivement, la question se pose, et la réalité, c'est qu'il faut être pragmatique et qu'il faut être inventif. On peut, pour l'instant, commencer à raisonner par analogie avec le télétravail, puisqu'on est dans une science de l'information et de la communication, donc on se rapproche du travailleur en télétravail. Mais effectivement, on n'a pas un code ni du travailleur dans le métavers, ni de l'avatar.
Alors, on a une question encore un peu plus tordu, je dirais. Peut-on envisager un entretien d'embauche dans le télétravail? Je crois que ça se fait déjà dans le métaverse. Est-ce qu'on peut envisager un entretien d'embauche dans le métaverse, Lise?
Alors, effectivement, on les fait déjà en télétravail et on signe les contrats de travail à distance.
Oui.
Et on peut commencer en télétravail, donc sans être jamais venu sur site. Là, il faudrait... Pourquoi pas, il y a des entreprises qui mettent des offres d'embauche dans le métavers. Si la personne a elle-même un casque et peut se connecter, pourquoi pas? Mais ça pose la question des discriminations à l'embauche, puisqu'il y a un coût pour avoir déjà le matériel pour pouvoir se connecter. Mais sinon, rien ne l'interdit.
Oui. Bon voilà, on répond, vous avez vu, hein, aux questions au fil de l'eau. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, puisqu'on est à Vivatech et qu'on est avec Lise Leborgne, une de nos avocates historiques, on a une question pour vous, Lise. On se demandait, ici on est dans l'univers de la technologie qui a également impacté le juridique, le droit. Est-ce que vous, en tant qu'avocat en droit du travail, vous êtes de près ou de loin impacté en bien ou en mal par les Legal Tech, dont on accueille régulièrement sur notre antenne?
Comme beaucoup de professions, les Legal Tech, elles nous aident à aller plus vite et à prendre en charge des tâches qui sont chronophages et qui sont redondantes. Ça peut être des Legal Tech qui nous aident pour sortir des jurisprudences, pour les analyser et pour les classer. Ça peut être des Legal Tech qui nous aident pour les calendriers. Donc c'est plutôt des tâches qui étaient très chronophages et qui peuvent sortir de notre emploi du temps. Donc ça ne révolutionne pas le métier, ça nous aide à aller plus vite.
Voilà, bon. Métavers, droit du travail, on a rempli notre cahier des charges,
non ? Ça en fait des questions, voilà. Ne serait-ce que la question sur le code du travail. Le monde à quoi ressemblera le code du travail dans quelques années avec ces nouvelles révolutions, Lise ? Là, c'est une grande question.
On espère que ça restera le code de la dignité du travailleur et pas le code de l'avatar, voilà.
Ça reste effectivement le code de l'avatar, voilà, c'est une belle expression. Merci beaucoup, Lise. Merci de passer nous voir ici à Vivatech. Lise Leborgne, avocate à la Cour, cabinet Cantor Leborgne. Avec nous sur BFM Business. Il est midi 43, Lorraine, on marque une pause.
Et puis après, on recrute à Vivatech Wire.
Ici, en chair et en os, évidemment. À tout de suite.
À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Allez, midi 45, on est de retour ici à Vivatech, Porte de Versailles à Paris, et on recrute. Il n'y a pas de raison, Lorraine, ici comme ailleurs.
On recrute comme tous les jours. On accueille deux recruteurs en même temps. D'abord, Victor Thion. Bonjour, Victor. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Click. Avec vous, on va être dans le financement de l'IT. On va être un peu dans le hardware. Et on accueille également Valran. Bonjour Valran Moulet-Berthaud.
Bonjour Lorraine, bonjour Guillaume, merci de nous accueillir.
Vous êtes le fondateur du Crayon, un peu un concurrent, vous allez voir, on va parler médias, mais on va d'abord démarrer avec vous, Victor. Click, je l'appelle pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio, c'est C-L-E-A-Q. Vous aidez les entreprises, petites et moyennes, on va dire, start-up incluses, à financer eh bien, leur hardware, comment dire autrement, leurs ordinateurs, leurs téléphones.
Le matériel informatique.
Pour travailler, évidemment. Alors, ce que vous faites de manière un petit peu innovante, c'est que vous faites ça sous la forme d'un abonnement et avec un sous-jacent écologique qui manque terriblement aujourd'hui à Vivatech, il faut le dire, n'est-ce pas, Guillaume? Peut-être une réaction d'abord sur ça. On déambule dans les couloirs ici. Comme en 2019, l'écologie n'est clairement pas à la une de l'événement.
Alors, nous, on a une chance sur les sujets RSE, c'est que naturellement, notre business adresse la diminution de l'impact écologique. Le numérique, c'est un impact énorme. C'est une fois et demie l'aviation civile, donc c'est vraiment conséquent. Nous, du fait qu'on soit les gestionnaires de la flotte des entreprises qu'on accompagne, on intervient à plusieurs étapes en fait, pour les aider à réduire leur impact qui est lié à leur utilisation numérique. Et finalement, ça devient, nous, la mission sous-jacente à notre business traditionnel.
Voilà, le financement du cycle de vie, mais aussi, on imagine, la réparation et l'assistance au quotidien.
Voilà, alors la réparation, c'est un des grands leviers pour éviter de faire du déchet électronique, de surproduire du déchet électronique, éviter aussi de produire du neuf, un appareil réparé. Nous, dans 80% des cas, on réussit à réparer les appareils, donc on évite 80% de cas.
Dans 80% des cas, on répare.
Oui, bien sûr. Alors, on a une équipe de support qui est internalisée chez nous, qui prend les demandes des collaborateurs chez nos clients. Et puis, quand c'est de la casse, on répare les appareils. Nous, l'objectif, c'est allonger la durée de vie et ne jamais mettre au placard quel réflexe un peu naturel des entreprises. Bien sûr.
Alors pour faire ça, l'autre sous-jacent c'est la technologie, puisqu'on rappelle, hein, vous êtes un SaaS et vous êtes avec nous pour recruter. Vous êtes une quinzaine aujourd'hui basée à Paris et vous recherchez des gens pour continuer à grossir. D'abord, qu'est-ce qui explique votre besoin en main-d'œuvre et en cerveau là à T0 aujourd'hui en juin 2022?
Alors aujourd'hui, nous, on a une croissance qui est soutenue. Notre chiffre d'affaires a fait x12 par rapport à l'année dernière. Forcément, on a besoin de ressources pour continuer à croître, à accompagner nos clients sur les enjeux impact, à construire une technologie qui est robuste en fait pour délivrer aux clients ce qu'ils attendent de nous, à savoir une gestion optimisée de leur flotte informatique. Donc on recrute des profils tech, mais aussi des profils business, au contact des clients. On met beaucoup d'humains chez nous et je pense que c'est ça qui fait la différence d'ailleurs.
Bah alors soyons spécifiques, Victor, dites-nous quels sont les postes qui sont à pourvoir dans votre équipe.
Alors aujourd'hui, on a deux postes qui sont ouverts en développement front-end, un poste junior, un poste senior, pour bosser aussi bien sur l'application Click qui est à destination des clients, mais aussi sur nos outils internes pour optimiser nos interfaces. Et puis on a quatre postes qui sont ouverts sur la partie business, des postes de business developer pour être au contact des clients au quotidien, faire de la pédagogie sur l'impact numérique, faire de la pédagogie sur notre solution. Et on a aussi un poste qui est ouvert au marketing. Donc ça, c'est ceux qui vont se charger d'aller chercher nos clients sur les canaux d'acquisition et leur faire connaître l'offre.
Et ben voilà, 6 postes à pourvoir chez Click, ici du côté de VivaTech. Comment est-ce qu'on postule, Lorraine?
Alors ça se passe chez un autre acteur du digital et de la tech, c'est sur Welcome to the Jungle. Vous allez voir la page de Click. Et puis vous pouvez écrire directement à Agnès, dont l'adresse s'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent à la télé ou en replay. C'est agnes@click.com. On va rester évidemment dans la tech et dans l'innovation avec un média.
Allons-y.
Il s'agit du crayon, incarné par Valran. Bonjour Valran.
Rebonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Rebonjour Victor.
Alors vous êtes un média, on va le dire tout de suite, dont le mot-clé c'est le débat. Vous vous adressez en particulier aux moins de 35 ans et l'autre mot-clé chez vous c'est la vidéo. Pitchez-nous en quelques secondes ce que vous faites avec l'équipe du crayon.
En fait, le crayon, c'est le premier média de débat des 18-35, on va dire des moins de 35 ans plus largement. En fait, nous, on est parti d'un constat très simple, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec l'explosion en fait, de ces canaux numériques, les gens se créent des boucles d'intérêt.
Ouais.
Et ces boucles d'intérêt, en fait, vont juste nous auto-entretenir parce que le but des plateformes est de nous faire rester. Et c'est leur but business,
tout à fait
logique et cohérent de leur côté.
Vous en faites partir, c'est ça en gros.
Non, mais en fait le problème de ça, en fait, c'est que ça provoque en fait une radicalité toujours plus grande, parce qu'en fait c'est un peu comme de la drogue. On va juste augmenter la dose de radicalité dans les propos politiques, dans les propos sociétaux ou dans les opinions de manière plutôt globale. Et en fait, nous, ce qu'on essaye d'adresser comme problème, c'est de se dire comment réussir à créer un média où en fait toutes les opinions en France peuvent être représentées. Et donc du coup, la meilleure manière de le faire, tout en respectant les exigences de viralité de ces plateformes, c'est de faire débattre les gens le plus largement possible et d'essayer de réunir dans cet esprit-là, en fait. Et de poser la question, en fait, de manière presque éducative, entre guillemets, de pourquoi vous pensez ce que vous pensez et êtes-vous certain de ce que pensent vos adversaires intellectuel, est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont si différents ou si éloignés de vos positions?
Alors ça se fait évidemment en vidéo, vous êtes assez actif sur YouTube, alors on comprend l'enjeu du SEO avec Google, mais vous avez aussi une autre partie de votre cerveau qui accompagne les entreprises, entre autres, avec du contenu. On peut vous qualifier d'entreprise d'influence. Comment vous arrivez à combiner les deux?
Bah exactement, en fait nous on a trois axes de monétisation. Donc la monétisation de l'audience, ça c'est très simple à comprendre, c'est comme le frais brut ou comme le frais combini. On a une monétisation de nos compétences, comme le ferait une agence d'influence, une agence de création de contenu, une agence de stratégie digitale. Généralement, les trois vont de pair parce qu'en fait, on est à la baguette, à l'origine et à la sortie de ces opérations-là. Et on a développé très récemment une marque relation presse et self-branding, donc développement de marque personnelle à destination des entrepreneurs, qu'on appelle le surligneur, pour rester dans cette gamme un peu, et en fait qui a pour but de connecter les entrepreneurs aux médias là où aujourd'hui on voit qu'il y a un gros manque. C'est pas le cas sur BFM Business évidemment, mais c'est le cas sur beaucoup de médias là où les entrepreneurs sont de plus en plus en train de prendre des positions sociétales qui en fait dépassent bien au-delà du cadre de leurs activités professionnelles, même si les deux sont souvent intimement liés.
Voilà, oui, vous déploriez l'absence d'entrepreneurs. C'est vrai qu'on essaye d'être un endroit où, ça, c'est où les entrepreneurs peuvent avoir voix au chapitre, et tant mieux si d'autres endroits peuvent accueillir leur parole.
Exactement.
Aussi. Alors évidemment, vous êtes aussi une entreprise, vous êtes une grosse dizaine, vous êtes 13 actuellement, également basée à Paris, toute jeune, il faut le dire, quand même, 2021.
Exactement, on est très jeune et on a personne de plus de 25 ans dans l'équipe aujourd'hui.
Bon, alors peut-être que si vous avez plus de 25 ans, vous pouvez quand même postuler évidemment à quelques-uns des postes que vous allez nous présenter, Valorant, parce que vous cherchez à recruter comme une entreprise qui grossit. Pas beaucoup de postes, mais néanmoins essentiels vu votre taille. Dites-nous les postes à pourvoir.
Exactement, on pourvoit 3 postes aujourd'hui pour consolider nos 3 axes. Donc un poste de commercial, notamment à destination des grands comptes et des grandes entreprises. Un poste de ce qu'on appelle account manager dans notre système, mais en fait c'est gestionnaire de comptes clients, et donc du coup le suivi de l'opérationnel et du fait de délivrer nos projets aux clients et faire ce suivi-là. Et un poste pour étoffer le surligneur, donc dans la relation presse, donc relation aux médias et relation aux entrepreneurs, pour le mieux possible connecter les deux et faire en sorte que ce système-là fonctionne et dans l'intérêt du média et dans l'intérêt de l'entrepreneur.
3 postes à pourvoir ?
Oui. Alors évidemment, ça va se passer sur LinkedIn.
Ouais, ça va se passer sur LinkedIn, évidemment. Ouais,
bah, on est très réseaux sociaux, donc forcément, nous, comme on a plutôt des grosses communautés, on en profite aussi pour la mobiliser quand on recrute. Mais ces postes-là sont ouverts et pas encore pourvus.
C'est bien naturel. Comment est-ce qu'on postule, Laurette ?
Eh bien, on vient de vous le dire, hein, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur la page de Le Crayon. Vous pouvez même adresser directement votre message à Manon, qui vous répondra, Manon Beau. Alors, un mot quand même pour vous deux, puisque, bon, Valorant, on entend que vous avez moins de 25 ans. Victor, on ne va pas vous poser la question, mais vous êtes tous les deux jeunes gens ici à Vivatech. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, ou qui nous regardent, vous pouvez résumer un peu l'esprit dans lequel vous êtes venus tous les deux, avec des attentes, dans une logique de client, dans une logique de recrutement? Qu'est-ce que deux patrons de start-up viennent faire ici, Victor?
Je pense que c'est une opportunité extraordinaire d'avoir Vivatech à Paris, chez nous. Nous, en tout cas, on est implanté à Paris. Et puis l'opportunité de chercher des talents aujourd'hui, c'est vrai, c'est quand même pas facile de trouver des talents pour venir dans les start-up.
Oui.
Alors peut-être que la conjoncture va changer les choses, peut-être qu'il va y avoir plus de talents, mais en tout cas, c'est très bataillé, donc je pense que c'est une belle opportunité de trouver des gens qui vont nous rejoindre et apporter l'intelligence collective.
Vous venez entre autres recruter ici dans la mesure du possible.
On essaye de rencontrer des gens.
Tu viens faire tes emplettes ici.
Voilà, c'est une très belle opportunité de rencontrer des gens, bien d'avoir sûr des connexions et potentiellement de trouver des opportunités sur les sujets RH ou sur d'autres sujets.
Valorant, c'est votre premier Vivatech à tous les deux au passage?
Non, c'est le deuxième. C'est moi, j'étais passé deuxième très rapidement l'année dernière, mais j'étais resté même pas une demi-journée.
Oui. Même question, qu'est-ce que vous venez chercher ici à Vivatech? Vous recrutez, prendre des contacts?
Un peu de tout, donc ça peut être des clients, des partenaires, aussi des invités pour le média. Mais plus globalement, nous, c'est un événement totalement incontournable pour nous qui sommes dans l'écosystème média et entrepreneuriat, parce qu'en fait on est parmi les médias de notre génération, oui, les plus proches des entrepreneurs et de la tech aussi, parce que beaucoup des médias qui sont créés sont plutôt éloignés, sont sur des questions beaucoup plus sociales et sociétales. Nous, on s'occupe de ça aussi parce que nos 4 fondateurs en fait sont devenus aussi de ce qu'on appelle des solo médias, donc en fait presque des influenceurs, on va dire. Et mes comptes à moi en fait servent à parler d'entrepreneuriat, de technologie et d'innovation. Et donc du coup, c'est ici aussi où je prends aussi des informations, où je me renseigne, parce que je pense que c'est aussi un endroit où on peut apprendre en fait beaucoup sur ce qui va se passer.
Bon, alors pour conclure, je vais revenir sur cette histoire d'écologie quand même qui me semble dramatiquement absente aujourd'hui. Valorant, pour conclure, parce que Victor, on vous a posé la question tout à l'heure, comment on explique que l'écologie, le climat semble aussi peu, hein, à vue d'œil comme ça, au cœur des préoccupations de Vivatech aujourd'hui?
Je pense qu'il faut différencier deux choses. Il y a la question de la communication autour de cette écologie qui a l'air plutôt absente, et la question de la réalité concrète de si elle est présente. Et ça, pour le coup, j'ai pas les infos pour le mesurer. Mais ceci étant dit, la communication, c'est très important parce que ça permet de vraiment ancrer le message comme quelque chose d'omniprésent et de constamment présent, notamment dans des événements de haute médiatisation. Mais aussi, il faut que derrière ça suive en action très concrète. Et Change Now avait montré un bel exemple de ça très récemment à Paris.
Merci messieurs, Victor, Valorant, merci de venir nous voir aujourd'hui sur BFM Business. Merci ma chère Lorraine, c'est terminé pour aujourd'hui. On sera là demain. Hein.
On sera demain à Vivatech avec un autre sujet au cœur des entreprises, comment féminiser ses équipes tech. On va tenter d'y répondre sans bullshit demain, de manière très, très pragmatique et proche du terrain.
Et nous, dès midi, bien sûr, avec des acteurs de la French Tech, rendez-vous demain midi pour nouvelles aventures, 60 minutes business ici à Vivatech. Bonne journée, à demain.
À demain.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.